Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on se passer de plastique ? Je n'utilise pas de sac plastique, j'évite le suremballage inutile, j'opte pour le savon liquide, je n'utilise pas de paille ni de ballon de baudruche. Voici quelques-uns des conseils à suivre pour participer ces jours-ci au No Plastic Challenge, une opération qui vise à inciter les consommateurs à réduire leur consommation de produits plastiques. Un combat dans l'air du temps. Avant-hier, la Journée mondiale de l'environnement était placée sous le signe de la lutte contre la pollution plastique. Selon l'ONU, si la façon de consommer et de gérer les déchets continue comme aujourd'hui, il y en aura 12 milliards de tonnes dans le monde en 2050. Pour ne pas en arriver là, la Commission européenne vient elle aussi de lancer son offensive, un projet de directive visant à réduire l'utilisation des produits en plastique à usage unique, couverts, assiettes et autres cotons-tiges. Bruxelles s'est fixé cet autre objectif, 100% d'emballages recyclables à l'horizon 2030. Alors il est vrai que le plastique pose d'énormes problèmes sur le plan environnemental et sanitaire. Mais si ce produit a connu un tel succès, c'est aussi pour sa modernité, léger, bon marché. Il a eu un rôle important dans notre sécurité alimentaire. Alors peut-on se passer de plastique ? C'est le sujet du soir en compagnie de trois invités. Hervé Millet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des affaires techniques et réglementaires de Plastique Europe. Plastique Europe, c'est une association professionnelle de producteurs européens de plastique. Pour discuter avec vous, Célia Renesson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez vous aussi une association professionnelle, vous l'avez même cofondée, c'est l'association Réseau Vrac qui milite pour la promotion de la vente en vrac, donc avec un minimum d'emballage plastique. Et puis notre troisième invitée, elle est en duplex des studios de France Bleu à Montpellier. Il s'agit de Nathalie Gontard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche en sciences de l'aliment et de l'emballage à l'INRA. L'INRA, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et vous travaillez sur de nouveaux emballages biodégradables et 100% recyclables. Alors avant de parler peut-être des problèmes que pose le plastique, en particulier les déchets et de la façon dont on pourrait les diminuer, si ce n'est les éradiquer, il faut d'abord évoquer ce succès incroyable quand même de ce matériau qui est partout. Hervé Millet, tiens, par exemple, vous qui avez l'œil, j'imagine, pour détecter tout ce qui peut être en plastique. Dans ce studio dans lequel vous êtes, qu'est-ce qui est en plastique ? À peu près tout ?
À peu près tout, oui. Oui, le plastique, c'est effectivement une histoire assez incroyable qui a commencé au début des années 50.
Et quand je vous posais la question, c'était une vraie question, hein ?
Oui. Le revêtement, sans doute, du meuble, le revêtement mural,
le casque que vous avez sur les oreilles,
le casque, les lunettes que je porte, verre et monture. Donc vous voyez, le plastique est utilisé dans à peu près tout. Et effectivement, c'est une histoire assez formidable qui remonte au début des années 50 en termes de croissance industrielle et avec une croissance de la production qui est passée de zéro à peu près 340 millions de tonnes dans le monde en 70 ans, enfin 75 ans. Et pour la bonne raison que effectivement ça a répondu à tout un tas de besoins de la société et avec l'avantage principal, des plastiques, parce qu'il ne faut pas parler du plastique, mais des plastiques, d'être tout à fait polymorphe et d'avoir des propriétés excessivement variées qui permettent de répondre à un nombre très important de besoins différents.
Alors le plastique est partout, mais est-ce que c'est possible de vivre aujourd'hui dans un environnement, peut-être pas avec 0% de plastique, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, Célia Renesson, mais en tout cas, est-ce que vous faites la chasse au plastique et ça ressemble à quoi, en tout cas, une vie avec peut-être moins de produits qui utilisent ce matériau ?
Oui, alors en effet, c'est assez compliqué aujourd'hui de vivre sans plastique, en tout cas sur la consommation d'une télé, voilà, les appareils ménagers. Sur la partie, par contre, consommation de la vie courante, donc produits de grande consommation, là, effectivement, en tant que consommateur, aujourd'hui, on peut agir et on peut consommer d'une autre manière. Et c'est ce que je fais aujourd'hui sur la partie alimentaire et non alimentaire. Donc, sur la partie alimentaire, c'est s'équiper, déjà la première chose. Faire ses courses avec des contenants réutilisables dans des points de vente qui permettent de choisir la juste quantité de ces produits-là. Donc on va l'avoir sur le sec, le riz, les pâtes, etc. Sur les produits liquides alimentaires, les huiles, des sirops, des jus. Et sur la partie non alimentaire, tout ce qui est produit de cosmétique, hygiène. Donc aujourd'hui, c'est possible. Et après, on verra, je pense, tout au long de l'émission, comment c'est possible et s'il y a encore des freins. Mais c'est le cas, et notamment aussi pour d'autres parties d'équipements et d'accessoires d'hygiène et de cosmétiques, c'est possible.
Ah, puisque vous évoquez justement la question alimentaire, Nathalie Gontard, vous avez signé plusieurs articles pour le site The Conversation et consacré à cette question du plastique, de la gestion des déchets, mais vous évoquiez aussi ce formidable succès, cette formidable invention que ça a pu représenter au siècle dernier, notamment parce que ça a permis des progrès énormes en matière de sécurité alimentaire, écrivez-vous.
Oui, tout à fait. Donc moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur l'emballage plastique alimentaire et je crois qu'il est important de rappeler que ces emballages alimentaires, alors qu'ils soient plastiques, verre, métal ou papier, hein, constituent une formidable opportunité en termes de santé, de sécurité, de réduction des pertes et gaspillages alimentaires. Ils apportent une sécurité, une facilité de consommation des aliments qui ont vraiment révolutionné notre vie quotidienne et ce, sur toute la planète. Il est aussi important du coup de rappeler que par rapport des choses, le secteur des industries agroalimentaires, mais aussi celui de l'agriculture, utilise la majeure partie, 40% pour être précise, des plastiques et un pourcentage encore plus élevé des plastiques à courte durée de vie. Et bien évidemment, à ce titre, ce secteur est le premier secteur qui doit se tourner vers des alternatives plus écologiques. Alors, peut-être pour préciser un petit peu, cet emballage plastique alimentaire, il est là pour protéger, transporter, stocker ces denrées périssables que sont nos aliments. Et qu'en réduisant les pertes des denrées alimentaires au cours des étapes de distribution, de stockage, de commercialisation, ces emballages contribuent à d'importants enjeux de sécurité alimentaire.
Est-ce que vous diriez que c'est justement, Nathalie Gontard, parce que les produits plastiques sont eux aussi des matériaux périssables, parce que pour un certain nombre ayant une durée de vie très courte, puisqu'ils sont à usage unique. Je pense par exemple, là j'ai devant moi une bouteille en plastique avec de l'eau de source à l'intérieur. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est devenu à la longue, et au fur et à mesure que la production mondiale de plastique augmentait, un vrai problème de gestion de déchets?
Alors, certes, on peut considérer les plastiques comme des matériaux périssables, mais en fait, ils le sont pas assez, puisqu'ils persistent.
Non, j'entends des périssables dans l'usage qu'on en fait, hein, bien sûr, hein, pas dans le côté biodégradable.
Ce sont des usages à très courte durée de vie, mais c'est important de dire aussi qu'ils sont périssables dans la mesure où ils ne sont pas stables, c'est-à-dire qu'on peut pas les réutiliser éternellement. Ils se dégradent aussi, mais à une vitesse très très lente.
Hein. Hervé Millet, sont des produits donc souvent à usage unique. Non, vous avez l'air de pas être tout à fait d'accord là-dessus.
Non, je vais simplement rectifier, parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'emballage. C'est très important, c'est le premier marché, c'est 40% du marché des plastiques. Et dans l'emballage, principalement, effectivement, ce sont des produits à courte durée de vie, excepté les emballages réutilisables, aussi en plastique pour certains. Les 60% restants sont quand même des utilisations durables, que ce soit dans le bâtiment, l'électrique, l'électronique, l'automobile, etc. Voilà, il faut quand même pas omettre toutes ces utilisations qui ont une longue durée de vie. Il n'en demeure pas moins que pour les produits à courte durée de vie, se pose effectivement aussi la question de la gestion des déchets, et que là, il y a effectivement des progrès à faire.
Alors justement, sur la question des déchets, d'après les chiffres qui sont communiqués par l'ONU, 6 milliards de tonnes aujourd'hui dans le monde de déchets plastiques, enfin aujourd'hui, en 2015, forcément, ça a un petit peu augmenté. Les prévisions, bon, c'est ce que valent les prévisions, c'est-à-dire c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir une idée un petit peu précise, mais 12 milliards de tonnes en 2050, Célia Renesson, ça pose avant tout quoi? Alors un problème environnemental, une pollution maritime, c'est celle d'ailleurs dont on parle beaucoup en ce moment.
Oui, il y a plusieurs points en fait. Alors, l'emballage de manière générale, après il faudra regarder la composition du matériau de l'emballage, mais la première chose c'est que l'emballage à usage unique a un impact direct sur l'environnement. C'est une véritable cause. Là-dessus, on doit agir. Après aussi, il y a eu un rapport qui est sorti là au mois d'avril, une publication faite par Zero Waste Europe et les Amis de la Terre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire, qui faisait un lien direct entre gaspillage alimentaire et emballage plastique à usage unique, et qui démontrait le contraire d'une idée reçue, c'est que l'emballage plastique à usage unique ne favoriserait pas le gaspillage alimentaire, et en fait on se rend compte du contraire. Donc on a déjà un impact là-dessus. On sait qu'aujourd'hui 85% des déchets qui sont sur les plages sont d'origine plastique. Et on sait que les emballages plastiques peuvent migrer, en tout cas je parle pour la partie alimentaire, vers les aliments. Donc pour moi il y a deux conséquences sur la partie emballage plastique dans l'alimentaire. Un environnemental et un potentiel sur la santé. On le sait, avec les bisphénols A, les phtalates et les nouveaux qu'on va retrouver dans les bouteilles plastiques. Donc l'emballage plastique à usage unique et l'emballage tout court à usage unique, aujourd'hui, n'est pas une solution en soi. La solution, c'est d'utiliser des emballages réutilisables et ou dans des matériaux neutres comme le verre, qui, on sait, sont sains pour la santé.
Hervé Millet, problème environnemental et problème sanitaire à cause de la pollution liée aux produits plastiques.
Oui, alors je voudrais revenir sur les supposés problèmes sanitaires qui sont effectivement souvent évoqués. Les applications plastiques, et notamment pour contact alimentaire, font partie des applications les plus réglementées en Europe. Les plastiques doivent suivre une réglementation spécifique pour le contact alimentaire qui autorise spécifiquement la liste des additifs qui doivent et qui peuvent être utilisés. Je voudrais rassurer tous nos auditeurs sur l'innocuité des emballages plastiques alimentaires, sachant que les producteurs que nous sommes et les transformateurs doivent évidemment se conformer à la réglementation et n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait de problèmes sanitaires avec nos produits.
Donc, sauf si ces produits se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Là aussi, je vais encore citer l'ONU qui dit il y a des déchets qui peuvent être consommés par le bétail et qui se retrouvent donc dans la chaîne alimentaire. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait aussi manger du plastique sans savoir qu'on en mange.
Bon, vous m'apprenez cette étude que je ne connaissais pas. On parle beaucoup de plastique qui pourrait se retrouver dans la chaîne alimentaire au travers de la pollution marine. Ça reste à démontrer. À mon avis, le problème dont il est ici surtout question, c'est le problème environnemental et qui n'est pas nécessairement d'ailleurs lié au matériau lui-même, qui est lié à la façon dont ce matériau et ces produits-là sont gérés en fin de vie, et notamment par le citoyen. Je voudrais quand même rappeler que on ne serait pas ici, ou l'Europe ne serait pas ici, à proposer une interdiction des cotons-tiges si tous les citoyens avaient le réflexe de mettre les cotons-tiges dans leur poubelle. Donc ça me semble quand même être un élément important à prendre en compte.
Voilà, idem pour la pollution maritime. Nathalie Gontard, sur cette question de la pollution sanitaire. D'abord, est-ce que vous considérez, comme Hervé Millet, qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui finalement d'ingérer des plastiques? En tout cas, il y a une innocuité des plastiques pour la santé. Mais est-ce que ça, on est sûr que c'est quelque chose dont on pourra être aussi certain dans 50 ans ou dans un siècle? J'ai vu là aussi dans vos écrits que vous évoquez notamment le fait que le plastique se dégrade quand même au fil des années, qu'il se transforme en nanoparticules et que là, par contre, ça peut très vite s'ingérer, se retrouver dans l'organisme.
Voilà, je crois qu'il est important de bien séparer les problèmes. Donc, l'aspect sécurité du matériau contact, c'est vrai que c'est géré par des organismes comme l'EFSA. Ça fait une quinzaine d'années que je suis expert, donc je peux en effet confirmer qu'il y a quand même une réglementation très stricte sur les migrations. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec les aspects risques environnementaux qui sont liés au devenir des déchets d'emballage plastique. Alors, je crois qu'il est important de bien considérer ce danger à trois niveaux, à court, à moyen et à long terme. Alors, à court terme, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on appelle les macroplastiques. Donc, ces macroplastiques avec des tas d'animaux, des baleines, des cachalots, des tortues, des oiseaux, etc., qui les ingèrent, donc avec un risque au niveau de la biodiversité. Ça, c'est le court terme, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Ensuite, si on regarde à moyen terme, c'est-à-dire, on va dire, disons, dans quelques années, où on le voit déjà, Le plastique, en quelques années, de par sa nature polymérique, il se dégrade en petites particules au cours du temps. Et cette dégradation peut être accélérée, par exemple sous l'effet d'une abrasion, comme c'est le cas lorsqu'on lave un vêtement en fibre synthétique, ou lors du passage des pneus sur les routes qui contiennent des polymères plastiques recyclés. Et du coup, on retrouve déjà des microplastiques dans notre environnement. Et dans la plupart de nos aliments, quand même. Il faut savoir que 72% des eaux du robinet en France sont déjà contaminées avec ces microparticules de plastique. On en retrouve aussi dans d'autres aliments, comme le miel, les produits de la mer, le sel, etc. Donc ça, c'est ce que l'on constate déjà actuellement, mais qui va s'amplifier en quelques années seulement. C'est le danger à moyen terme. Et ensuite, les plastiques, ces déchets plastiques dans notre environnement présentent un danger encore plus important à long terme. Donc là, c'est un danger qui va apparaître dans une dizaine ou une centaine d'années, parce que ça fait seulement 50 ans que l'on utilise les plastiques de façon massive. Et là, ce qui va se passer, c'est que ces plastiques, donc c'est leur nature hein, qui veut ça, vont passer de l'échelle micrométrique, donc microparticules, à l'échelle de nanoparticules, et on peut craindre la présence massive de ces nanoparticules de plastique dans notre environnement. Et dès que cette taille nanométrique sera atteinte, alors là, ces nanoparticules de plastique pourront pénétrer dans tous les organismes, y compris le nôtre, avec des effets qui sont mal connus à ce jour et qui sont très inquiétants. Et là, on ne pourra plus s'en protéger, parce qu'il sera vraiment très difficile de les arrêter vu leur petite taille.
Donc s'il y a la nécessité peut-être aujourd'hui, Nathalie Gontard, de lutter contre cette pollution liée aux déchets plastiques, c'est pas uniquement parce que pour sauver des baleines, mais c'est aussi dans une réflexion à plus long terme. Juste pour qu'on puisse bien faire circuler la parole, je voudrais faire réagir et Célia Renesson et Hervé Millet. Célia Renesson.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord sur c'était la problématique que je pointais du doigt, donc la partie environnementale et sur la santé, et on le sait aujourd'hui. Et donc la réponse aujourd'hui, enfin en tout cas une des réponses qui est assez pour moi facile à mettre en œuvre, c'est de ne pas produire de déchets. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et comment on peut arriver à cette partie-là, en tout cas sur la partie consommation, je me place de ce point de vue-là, puisqu'aujourd'hui Réseau Vrac, nous on représente donc les producteurs, les transformateurs, les magasins, les distributeurs de vrac. L'idée c'est avec le vrac d'apporter une solution au consommateur qui lui permet d'avoir le choix dans les emballages qu'il va utiliser pour faire ses courses. J'insiste bien sur le fait qu'on aura besoin, on a besoin d'emballages pour faire ses courses, à nous d'utiliser des emballages réutilisables. Donc on peut venir avec des sacs en tissu, là j'en ai apporté sur le plateau, avec des bocaux. On a des solutions qui sont mises en place aujourd'hui par des épiceries spécialisées. On en compte un peu plus de 160 aujourd'hui sur notre territoire. La France est en avance sur ce domaine-là. On voit de plus en plus de rayons vrac fleurir donc dans les magasins bio initialement, mais également dans la GMS. Et avec cette manière de consommer, on ne produit presque pas de déchets en tant que consommateur.
Sauf qu'il y a quand même des réglementations sanitaires qui peuvent aussi limiter l'expansion du vrac. Je sais pas, moi, si par exemple je vais dans un magasin et que j'y vais avec une bouteille en verre pour récupérer du lait ou de l'huile, je ne sais pas. C'est-à-dire, est-ce que finalement j'ai plus de garantie que le produit que je vais acheter va être bon pour ma santé que si c'est quand même quelque chose qui est dans un emballage plastique, peut-être qui a été stérilisé, comme par exemple le lait, enfin, ça ne règle pas tout non plus.
Alors, il y a aujourd'hui, tous les produits ne sont pas disponibles en vrac. Pour deux raisons, soit un frein réglementaire, soit un frein technique. Typiquement, le lait aujourd'hui en vrac n'est pas autorisé. En revanche, une huile, un vinaigre, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas d'interdiction. Et à partir du moment où le consommateur vient avec une bouteille propre, il peut réutiliser le produit. Tout le travail aussi de notre association, de Réseau Vrac, c'est de structurer ce marché qui est en train de se développer. On ne peut pas permettre à un consommateur et à un magasin de faire n'importe quoi avec le vrac. Le vrac doit être hygiénique, il doit être professionnel. Donc il faut étudier la réglementation, appliquer les mêmes règles et structurer les pratiques en termes d'hygiène. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Hervé Millet ?
Oui, je respecte les choix personnels des consommateurs qui font ce choix. Après tout, ça fait partie de la liberté individuelle du consommateur. Je ne suis pas certain que ce mode de consommation puisse être généralisé à la population entière de la planète. Voilà, mais c'est une possibilité.
Bah avant le plastique, c'est bien ce qu'on faisait.
Oui, avant le plastique, oui.
Bon, alors, je dis pas qu'il faut revenir avant les années 50, hein, mais.
Oui, c'est quasiment ce que vous venez de dire. Voilà, il faut savoir quand même que il y a beaucoup de parties du monde et de populations dans le monde qui aspirent à avoir un mode de vie qui ressemble au nôtre, et donc qui sont peut-être pas prêts à faire ce choix.
Non, mais est-ce qu'il y a quand même pas parfois, Hervé Millet, des emballages qui sont inutiles? Juste avant de vous laisser répondre à cette question, je vous fais écouter un petit reportage. Vous en avez sans doute entendu parler, parce que ça a eu pas mal d'écho médiatique ces derniers jours. C'était le week-end dernier, une opération Plastic Attack qui consiste à faire ses courses avec donc des sacs en tissu, comme nous l'expliquait Célia Renesson, et doter tous les emballages plastiques qui sont considérés comme étant inutiles par les clients. Il y en a eu plusieurs en France, notamment à Paris. C'est un reportage de CNews.
Des bananes emballées dans du plastique, même si leur peau suffit à les protéger. Ou encore des concombres si finement plastifiés qu'on ne voit quasiment plus la différence avec leur peau. Ce gâchis a été constaté par un mouvement citoyen qui a vu le jour il y a 3 mois dans un village d'Angleterre. Leurs idées ont traversé les frontières et se sont répandues dans une 50aine de pays. À Paris, dans un monoprix de Montparnasse, le collectif Plastic Attack dénonce ce gaspillage et appelle les Parisiens à enlever le plastique inutile pendant leurs courses. Cette action est autorisée par l'enseigne alimentaire, ce qui ravit le collectif. Pour eux, un engagement des industriels est nécessaire.
On a une pétition en ligne sur change.org, justement pour alerter les industriels sur ce emballage. On veut qu'il y ait vraiment une action concrète qui se mette en place.
De leur côté, les citoyens partis faire leurs courses jouent le jeu. Ils réalisent que ces plastiques sont une source de gaspillage et qu'ils sont très mauvais pour l'environnement.
Les éponges, par exemple, on regarde et c'est hallucinant en fait. On déballe et là, voilà, il y a encore de l'emballage. Donc on se retrouve avec des éponges suremballées. C'est une catastrophe.
Voilà, reportage de CNews, c'était le 3 juin dernier, il y a quelques jours de cela. Hervé Millet, une banane emballée dans du plastique, ça sert à quoi?
Alors, l'exemple de la banane et du concombre sont parfaits, parce que généralement, c'est les exemples que nous utilisons aussi pour démontrer l'intérêt d'utiliser du plastique, et qui consiste principalement à allonger la durée de vie de ces produits-là l'habitant. Les données que l'on a, c'est que l'emballage plastique pour les bananes permet d'allonger la durée de vie de 3 jours, et que l'emballage plastique pour les concombres permet d'allonger la durée de vie de 14 jours. Et ces pertes alimentaires, comme ça a été dit précédemment, représentent beaucoup d'impacts environnementaux. Je vais parler d'un autre aliment qui est la viande. Bon, je ne sais pas si ça viendrait à ma collègue. L'idée d'acheter de la viande en vrac. Enfin, c'est le cas, c'est déjà le cas. Mais
chez Boucher, vrai que, vous le mettez dans du papier.
Voilà,
c'est du vrac.
Mais pour le steak haché, par exemple, les DLC sont d'à peu près 10 jours sur le steak haché emballé. Toutes ces pertes alimentaires qui sont évitées représentent beaucoup d'impacts environnementaux. Il faut savoir que pour produire 1 kilo de bœuf, on dépense à peu près 15 000 litres d'eau et on émet à peu près 10 kilos de CO2. Donc toute viande économisée a un impact bénéfique pour l'environnement.
C'est les Renaissons.
Oui, je voulais rebondir sur l'emballage de la banane ou du concombre. Je suis personnellement pas du tout d'accord parce que, un, le concombre pourrit, donc je trouve que la durée d'allongement de vie n'est pas vraie. Et deuxio, quel est l'intérêt d'avoir un légume qui, une fois qu'il a été cueilli de l'arbre, dure 3 jours de plus en termes de nutriments apportés? Je veux dire, il y a un moment donné aussi, il faut avoir une réalité. Un fruit ou un légume, quand il est cueilli, il perd en nutriments 1 jour, 2 jours après. Donc, de le garder 6 jours chez soi, quel est l'intérêt? En plus d'avoir tous les emballages dont on a cité
Bah, cela dit, j'ai peut-être une solution pour vous mettre d'accord l'un et l'autre, pour se dire finalement, après tout, ce plastique là, eh ben on peut lui trouver une utilité à plus long terme, c'est en le recyclant. Nathalie Gontard. En tout cas, c'est l'idée que j'avais avant de faire cette émission, jusqu'à ce que, là encore, voilà, je me renseigne un petit peu et que je lise toujours sous votre plume que quelque part c'était une sorte de fausse promesse, le recyclage. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que on ne peut pas imaginer recycler 100% du plastique qui aujourd'hui est en circulation.
En fait, je dis ça parce que souvent on présente le recyclage comme une action qui permet de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire récupérer la valeur économique des plastiques et les éliminer de notre environnement. D'ailleurs, c'est sur ce raisonnement qu'a été construite l'initiative recyclage du gouvernement, hein, qui vise 100% de recyclage des plastiques en 2025. Alors, bien sûr, cette initiative est à saluer, mais c'est uniquement une mesure court-termiste, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se débarrasser de ces macroplastiques. Alors, pourquoi? Parce que si le premier coup peut être en effet porté sur la récupération de la valeur économique, bon, certes, en rajoutant un maillon consumériste à la chaîne, qui est déjà longue de celle du plastique, mais par contre, le deuxième coup, lui, il ne peut pas l'être, parce que ces plastiques, donc je reviens toujours là-dessus, ce sont des matériaux polymères qui se dégradent pendant leur utilisation et le recyclage, ce qui signifie qu'ils ne sont pas recyclables indéfiniment, comme les métaux, par exemple.
Par exemple, la plupart d'entre eux, justement, peut-être Nathalie Gontard, juste pour prendre un exemple. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que
je vous entends très bien. Oui.
Alors, pour prendre un exemple, je reprends celui de la bouteille d'eau en plastique que j'ai devant moi. Ça veut dire que cette bouteille-là, elle ne peut pas être recyclée ensuite. Mais non, je la jette, je l'écrase, je la jette dans une poubelle. Elle ne peut pas être recyclée. Une deuxième fois, elle ne peut pas vivre une deuxième vie de bouteille en plastique?
Alors, elle peut revivre une deuxième vie de bouteille en plastique. Donc là aussi, au sein de l'EFSA, j'ai beaucoup œuvré sur l'élaboration de ces réglementations sur le recyclage pour promouvoir le recyclage. Mais attention, elle doit être collectée, triée, décontaminée et ensuite repolymériser parce qu'il y a une dégradation du polymère. Donc là, le recyclage en lui-même est déjà coûteux vis-à-vis de l'environnement. Et, chose encore plus importante, on n'arrive jamais à retrouver les propriétés initiales. Donc très souvent, c'est mélangé, ce plastique recyclé est mélangé avec du plastique vierge. Et si on connaît tout ce qu'il faut sur un seul cycle de recyclage, par contre, dès qu'on passe à deux ou trois, ou voire pire cycle de recyclage, on sait très bien que ce n'est pas possible de reconstituer une bouteille. Donc, le résultat, c'est que quand on parle de recyclage, c'est ce qu'on appelle le recyclage en boucle ouverte. Donc, cette bouteille en PET, dans l'infinie majorité de son recyclage, sera transformée en pull. Et un pull, lui, ce pull ne sera plus recyclable. Une fois utilisé, il finira bien dans la décharge. Enfin, sans parler de la libération accélérée des microfibres dans les eaux de lavage, etc. Mais du coup, là, on parle de recyclage plutôt en boucle ouverte ou de décyclage. Et ce qui veut dire que là, on ne résout pas le problème des déchets plastiques, on le réduit temporairement, ou plutôt on le retarde un petit peu.
Hein. Peut-être voilà.
Donc ça, c'est important de bien en prendre conscience.
Peut-être qu'Hervé Millet va nous dire que l'industrie du plastique est en train de travailler à des plastiques qui seraient indéfiniment recyclables. Est-ce que ça, c'est une piste de recherche? Parce qu'il y a quand même une vraie problématique des déchets.
Alors, il y a une vraie problématique des déchets. Je n'en disconviens pas. Il faut effectivement valoriser le plus possible les déchets plastiques. Et c'est notre credo en tant qu'association professionnelle. On souhaite que 100% des déchets plastiques soient valorisés, qu'aucun déchet plastique n'aille en décharge. Évidemment, pas dans l'environnement aussi. Pour rebondir sur les propos précédents des limites au recyclage, le recyclage aujourd'hui s'opère dans des conditions qui sont suffisantes, effectivement, pour procéder à quelques cycles de recyclage. On peut doper les plastiques et doper les plastiques recyclés pour qu'ils retrouvent leurs propriétés d'origine. L'une des voies
Ce que disait Nathalie Gontard, c'est qu'en gros, à un moment donné, on peut plus le faire. Une fois qu'on a recyclé une fois, deux fois.
Oui, on n'a pas encore vraiment testé. Enfin, on a fait des tests aujourd'hui sur un certain nombre de polymères pour savoir combien de fois on pouvait les recycler. On arrive quand même à un nombre de fois relativement important. Et puis, il y a une nouvelle voie de recyclage qui est en cours de développement et d'investigation. C'est la voie de recyclage chimique qui consiste en fait à détruire les molécules de polymères, de plastique, pour en refaire d'autres molécules chimiques qui, elles, permettront de fabriquer soit des nouveaux plastiques, soit d'autres produits chimiques. Et donc là, c'est une possibilité de, d'entamer un cycle presque indéfini.
Nathalie Gontard, j'ai vu, alors je cite beaucoup les chiffres de l'ONU, mais enfin, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup avec cette journée mondiale de l'environnement consacrée à la lutte contre les déchets plastiques. Et parmi les chiffres qui sont cités, c'est que sur les tonnes de plastique qui ont été produites dans le monde depuis le départ, 12% ont été incinérées. Et là, je me suis dit, mais oui, évidemment, Eureka, pourquoi ne pas brûler tous les déchets plastiques? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ça pose quel problème?
On pourrait le brûler. Bon, mais comme on a déjà dit, c'est une perte de matière. Mais le problème de l'incinération des matières plastiques, c'est qu'on est obligé de mettre en place des solutions relativement coûteuses pour récupérer soit les volatiles potentiellement dangereux dans l'atmosphère, soit le CO2. Et je voudrais un petit peu rebondir sur ce que vient de dire Hervé Millet sur le recyclage chimique. C'est-à-dire que, comme pour toute solution, il faut peser la balance risque-bénéfice, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va coûter pour l'environnement. Si recycler chimiquement un plastique coûte plus cher à l'environnement que de le remplacer par un autre matériau, tout simplement, le choix doit être vite fait. Donc il est vraiment important de regarder la balance environnementale globale de toutes ces stratégies, de toutes ces solutions que nous proposons.
Célia Renaissant, vous, par rapport au recyclage, justement, vous y êtes plutôt favorable ou l'objectif, c'est plutôt justement de ne pas se mettre dans cette perspective-là, mais plutôt de, alors, je sais pas si c'est l'éradication des matériaux non biodégradables et non renouvelables, mais...
C'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Et ce que je reviens sur ma position de départ, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et on a vu précédemment qu'il y a des impacts en termes de coûts pour l'usager, de collecte des déchets, etc. Et un coût environnemental d'aller transporter, rebrûler ces déchets. Et que ce recyclage-là, de toute façon, il n'est pas infini en soi. Donc ce n'est pas une fin en soi. Et l'idée pour moi est véritablement de changer nos manières de consommer. Et quand on a une alternative, et aujourd'hui avec le vrac, on a une alternative de pouvoir faire ses courses à la juste quantité avec ses propres contenants, si on choisit des matériaux réutilisables pour le faire, on apporte une vraie solution pour réduire nos poubelles et donc notre impact sur l'environnement.
Hervé Millet.
Oui, je voulais rebondir sur ce qui a été dit précédemment de l'impact environnemental qui doit être évalué pour faire les choix entre les solutions. C'est vrai pour faire les choix entre les solutions de valorisation, mais c'est aussi vrai pour faire des choix de solutions entre les matériaux. Ma collègue disait que peut-être que d'autres solutions que les plastiques avaient des impacts environnementaux meilleurs que celui des plastiques. Ça reste à étudier au cas par cas. Et dans bien des cas, les matières plastiques ou les produits en plastique présentent un impact environnemental meilleur que celui des autres matériaux. Pour votre information, on a fait une étude il y a quelques années qui consistait à simuler une situation où on remplacerait toutes les matières plastiques par des matériaux alternatifs existants, des matériaux alternatifs qui étaient susceptibles d'être utilisés dans chaque application. Et il a été démontré que l'impact de ce remplacement générerait ou augmenterait la consommation d'énergie de 58% et les augmentations de CO2 d'au moins autant. Donc on a l'habitude de dire que les plastiques sont bons pour l'environnement, quoi qu'on en pense ou quoi que certains en pensent. Voilà,
à condition qu'on ne les retrouve pas dans la mer ou en pleine nature, bon, ce qui relève aussi, pas exclusivement, mais aussi de la responsabilité, on va dire, de chacun. Nathalie Gontard, on n'a pas encore parlé des projets, des programmes sur lesquels vous travaillé. J'ai vu que vous avez été lauréate l'an dernier du Laurier Défi scientifique. Alors, je vais le dire très vite, mais vous allez l'expliquer, ça sera évidemment beaucoup mieux et beaucoup plus précis que moi. Vous avez développé une technologie qui valorise les déchets agricoles avec un procédé de fermentation. Je m'avance pas plus parce que je pense que ça sera mieux expliqué par vous.
Voilà, donc ça c'est un exemple de produit alternatif que nous développons. En fait, je voudrais juste quand même rappeler que, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous remettons à plat le cycle des matériaux d'emballage. Et donc l'objectif, toujours dans l'objectif de développer de façon rationnelle ces alternatives, ces technologies ou ces matériaux alternatifs au plastique pour l'emballage alimentaire. Alors, concrètement, ces alternatives consistent d'une part à réduire drastiquement leur utilisation en changeant nos pratiques d'emballage et d'autre part de développer des matériaux écologiques. Et ces matériaux, on les développe à partir de ressources renouvelables non alimentaires. Alors, évidemment, important aussi, nous développons des matériaux qui n'utilisent ni pétrole ni ressources alimentaires. Évidemment, il nous paraît difficile de développer dans notre coin de pays riche des produits écolos qui, s'ils se développaient massivement, entreraient en compétition avec l'utilisation alimentaire des ressources agricoles. Donc, par exemple, pas d'amidon. Nous le remplaçons, nous valorisons des déchets ou des résidus que l'agriculture ou l'agroalimentaire ne valorise pas par ailleurs, comme par exemple certaines pailles, des résidus végétaux, des sarments de vigne, etc. Alors, parallèlement, et ça c'est important, nous développons des stratégies qui permettent d'optimiser le rôle de l'emballage, c'est-à-dire vraiment de maintenir les qualités et la sécurité de l'aliment avec le minimum de matériaux nécessaires. Et puis enfin, nous nous concentrons sur le développement de matériaux qui sont régénérables, donc soit grâce à un cycle de nettoyage des contaminations, à condition bien entendu qu'il soit favorable au niveau de la balance environnementale, soit grâce à un cycle naturel de biodégradation en bouclant le cycle de carbone. Et ça, c'est particulièrement important si on raisonne à long terme la gestion des déchets plastiques.
Et comment est-ce que vous les appelez, Nathalie Gontard, ces matériaux? Est-ce qu'ils font partie de la famille des plastiques ou pas du tout?
Parce qu'on parle beaucoup de bioplastique, mais souvent ces bioplastiques sont des plastiques biosourcés. Donc ce sont des séparmes du biopolyéthylène et du bio-PET qui ne résout en rien les problèmes de déchets. Donc là, nous, c'est vraiment des matériaux biodégradables, on peut dire doublement bio, donc qui sont issus de ressources renouvelables non alimentaires et qui sont entièrement biodégradables en conditions naturelles.
Hervé Miguel, les bioplastiques, ça pourrait être l'avenir de l'industrie plastique?
Un des avenirs, là, comme ça a été précisé, il y a effectivement deux notions qui sont celles d'utilisation de matières renouvelables et celles de biodégradabilité. En ce qui concerne l'utilisation de matières renouvelables, c'est effectivement quelque chose que nos producteurs étudient en termes de diversification de leurs matières premières pour se passer de ressources fossiles. Pour ce qui concerne la biodégradabilité, on représente aussi un certain nombre de producteurs de matières biodégradables. Est-ce que c'est l'avenir? Je ne pense pas. En tout cas, c'est l'avenir dans un certain nombre d'applications où cette biodégradabilité présente vraiment un intérêt. Et c'est vrai que, par exemple, dans des sacs qui servent à la collecte des biodéchets, ça peut effectivement présenter un intérêt important.
Célia Renaissant, pour conclure, par rapport au travail que vous faites à travers le réseau VRAC et notamment auprès des producteurs, c'est quoi le principal argument que vous leur présentez pour essayer de les convaincre de vous rejoindre dans cette démarche?
Alors, il y en a beaucoup qui le font naturellement parce qu'ils ont souvent une partie de leur production qui est ouverte vers le VRAC et ils ont de plus en plus conscience qu'il y a un impact fort là-dessus. On a des exemples qui marchent beaucoup en local. Ce sont des producteurs qui travaillent avec des emballages navettes, donc des produits, c'est-à-dire qu'ils livrent le magasin avec un emballage et ils récupèrent l'emballage au moment où ils relivrent l'autre produit. Et quand on arrive à travailler avec des producteurs et dans ce sens-là, on a gagné parce qu'effectivement, le consommateur peut venir avec ses contenants réutilisables, mais il faut qu'on amène aussi cette réutilisation des contenants entre le fournisseur et le magasin.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Célia Renaissant, Hervé Millet et Nathalie Gontard. Je remercie également nos camarades de France Bleu Hérault à Montpellier. Merci à l'équipe du Grain.
Marine Beccarelli, Antoine Tricot, Virginie Leduc, Antoine Dulster et Pouine Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Florent Bujon. Dans 3 minutes, ce sera la dispute BD avec Arnaud Laporte ce soir.
Vous vous en souvenez depuis une heure, c'est pas la littérature au sens strict, mais bande dessinée en effet.
Vous avez l'air épaté du fait que je m'en souvienne.
Oui, parce que je suis un peu inquiet par votre mémoire défaillante, Hervé Gardette. Est-ce que vous vous souvenez de la question de demain du Grain à Moudre?
Où se joue la bataille des idées, cher Martin Laporte? Arnaud, pardon, je ne me souviens plus de votre prénom.
En même temps, vous êtes en train de lire votre papier. Vous n'avez aucun mérite, Hervé Gardette. Il est 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.